le magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous et bienvenue au magazine des Nations Unies dont voici le sommaire. Opération Journée Ville Morte décrétée par l'opposition, le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme fait le bilan des arrestations, cas de répression et d'intimidation enregistrés, les détails dans un instant. Processus électoral en RDC, l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne et l'OIF montent au créneau. Elles appellent les acteurs politiques congolais au dialogue et au respect de la Constitution. Également dans cette édition, agence du système des Nations Unies en retraite la semaine dernière, but et objectifs ainsi que les recommandations de la rencontre. Ce sera avec un spécialiste planning au bureau intégré des Nations Unies en RDC. Enfin, un conflit Louba Pygmé, début de réconciliation en Bayo dans le Tanganyika. Une délégation mixte PNC-FARDC MONUSCO s'est rendue sur place la semaine dernière. Ce sera dans notre nouvelle de province.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour et merci de nous écouter chez vous. La semaine qui s'achève aura été marquée, nous le disions, par l'appel à la journée Ville Morte, lancée mardi dernier par l'opposition. Le bureau conjoint des Nations Unies a documenté des cas de répression, d'intimidation et même d'arrestation en rapport avec cette journée. Le directeur de ce bureau, José María Aranas, a appelé les acteurs politiques au respect des libertés d'expression en cette période préélectorale très cruciale. On l'écoute au micro de Jean-Pierre Lali Coco.
On a constaté une répression et intimidation très forte avant la journée d'hier contre les représentants de la société civile et les membres de l'opposition qui essayaient de faire la mobilisation de la population. Il y a eu des arrestations de membres de la société civile et aussi de leaders de l'opposition, même au niveau national, et membres du Parlement, comme Martin Fayoulou. Il y avait aussi une menace très forte du côté du gouvernement, des sanctions exemplaires contre ceux qui participaient dans les mobilisations. Pendant la journée d'hier, on a constaté aussi plusieurs arrestations de membres de la société civile et de l'opposition à Goma, à Kinshasa, à Uvira et à Matadi. À la fin de la journée, on a rapporté au moins 12 personnes qui restent encore en détention. Et maintenant, nous continuons à faire notre suivi et on reste vigilant pour voir s'il y aura des représailles contre ceux qui ont participé à la mobilisation d'hier.
José María Aranas sera l'invité de ce dimanche. Autre actualité, c'est le communiqué conjoint Union Européenne, Union Africaine, Nations Unies, OIF sur la situation en RDC, particulièrement dans la perspective des prochaines élections dans ce pays. Jean-Pierre Elali Coco, en résumé, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut retenir du message de ces quatre organisations internationales?
Premièrement, Tina, les quatre organisations soulignent l'importance cruciale des élections à venir en RDC. Elles mettent un accent sur les conditions requises de paix, de transparence et de régularité, et surtout sur la bonne date de ce scrutin. Des conditions qui permettraient, selon le communiqué, la consolidation des progrès enregistrés depuis une décennie dans ces pays. Deuxièmement, l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie demandent instamment aux acteurs politiques congolais de ne ménager aucun effort pour assurer la tenue réussie de ces élections et c'est dans le cadre de la Constitution. Elle souligne l'importance du dialogue et de la recherche d'un accord entre les acteurs politiques. Enfin, ces organisations exhortent l'ensemble des acteurs politiques à apporter leur coopération à l'envoyé spécial de l'Union africaine, M. Eden Kodjo, alors que des plateformes comme la Dynamique de l'opposition et le G7 refusent de le rencontrer.
Merci Jean-Pierre.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Les agences du système des Nations Unies étaient en retraite les 17 et 18 février dernier à Kinshasa. Il s'est agi lors de cette rencontre de discuter des contributions, défis et opportunités du système des Nations Unies dans le contexte congolais marqué par le retrait futur et progressif de la MONUSCO, mais aussi la mise en œuvre de l'agenda post-2015. Messieurs Père Mbjalkander, spécialiste planning stratégie au bureau intégré des Nations Unies en RDC, on parle dans cet entretien réalisé avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Monsieur Père Mbjalkander, bonjour.
Bonjour.
Les agences du système des Nations Unies viennent d'organiser du 17 au 18 février dernier, ici à Kinshasa, une retraite sur leur programme. Quel était le but et les objectifs poursuivis par cette rencontre?
Merci. C'était une retraite annuelle du système des Nations Unies. Surtout donc les agences des Nations Unies. Le but c'était de se un peu mettre à jour des derniers développements au niveau global et aussi les derniers développements au niveau national par rapport au développement et des questions de stabilisation et aussi humanitaire, parce que l'équipe pays réunit des agences avec de différents mandats. Le but était aussi de revoir un peu comment améliorer la planification à long terme du système des Nations Unies vis-à-vis les défis du Congo. Comment est-ce que les agences peuvent se mieux coordonner pour un meilleur appui au gouvernement et les acteurs nationaux dans les défis, donc en humanitaire, développement et stabilisation. Un autre aspect très important, c'était de discuter et de se mettre d'accord sur comment mieux s'intégrer et collaborer avec la mission des Nations de stabilisation de paix, c'est-à-dire la MONUSCO. On avait à cet effet aussi une présence de la MONUSCO au plus haut niveau.
On va y arriver. Vous avez parlé de l'appui que vous devez apporter au gouvernement. Par contre, dans la salle, on n'a pas vu de représentants du gouvernement, alors que le gouvernement est votre grand partenaire ici en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a une raison pour cela?
Oui, correctement. C'est en fait le gouvernement, évidemment, c'est le partenaire le plus important. C'est la raison pour laquelle le système des Nations Unies est au Congo, sur l'invitation du gouvernement. Alors, cette retraite était une retraite interne parce que on estimait qu'il fallait qu'on mette la maison en ordre avant de discuter les stratégies et les questions d'alignement avec les politiques du gouvernement. Donc, on a retenu de se limiter aux agences et les sections de la MONUSCO. Je voudrais ajouter que il y a quelques semaines, au niveau des chefs de programme et les représentants adjoints des agences se sont réunis, hein, c'est en janvier, pour aussi avoir leur retraite annuelle. Et là, on a eu une bonne représentation du gouvernement qui ont expliqué les différents processus de planification, de développement, etc. Donc, toutes ces recommandations et les différents résultats de cet atelier ont été pris en compte dans cet atelier des chefs d'agence.
Et d'une façon globale, vous aurez encore une rencontre avec le gouvernement?
Oui, bien sûr, on a des rencontres régulières dans des différents forums, mais justement, si on passe aux recommandations, il est clair que nous voulons et nous sommes prêts en tant que système des Nations Unies à nous engager davantage avec le gouvernement. Et le processus naturel pour cela, pour le moment, c'est la contribution au processus de développement d'une nouvelle stratégie nationale de développement qui est en cours et sur laquelle d'ailleurs nous devons nous aligner.
Voilà, puisque vous parlez des recommandations, à part le grand appui, la détermination que vous avez prise d'appuyer les gouvernements, est-ce qu'il y a d'autres recommandations qui sont sorties de cette rencontre que vous avez eue la semaine dernière?
Oui, il y a un tas de recommandations qui ont été émises, qui sont en train d'être mis en ordre. Mais je peux mentionner, par exemple, que les chefs d'agence se sont engagés pour vraiment aller plus loin dans l'uni dans l'action, ce qu'on appelle « delivering as one ».
Donc, c'est dans l'unité.
Dans l'unité. Cela pour faciliter au gouvernement d'interagir avec le système des Nations Unies, parce qu'il y en a plus de 20 agences et aussi donc la MONUSCO. Donc ça peut être parfois difficile de savoir qui représente, qui est, alors quel est l'essentiel du système. Si on est unis dans l'action, cela permettrait mieux au gouvernement de se relater et d'avoir des interlocuteurs. Cela aussi s'applique aux opérations. Ils se sont engagés à mieux collaborer aussi au niveau des opérations parce que comme ça on peut couper des coûts et aussi d'être plus efficace, obtenir plus de résultats si on travaille conjointement au niveau des opérations, c'est-à-dire la procuration, les transports et tout ça. Donc voilà, il y a cet engagement et dans le système des Nations Unies, on parle de joint business operations, de développer une stratégie pour cela. Et tout ça aussi pour appuyer les différentes initiatives au niveau national. Je peux aussi mentionner qu'on s'est mis aussi d'accord sur l'importance d'avoir une vision ou narrative commune des Nations Unies.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire de mieux peut-être identifier quel est notre appui à ce pays, à ce pays. Il y a beaucoup d'analyses dans les différents domaines, la stabilisation humanitaire et développement, et nous voulons un peu mieux mettre cela ensemble pour savoir alors quels sont les vrais défis auxquels le système des Nations Unies peuvent contribuer. Donc un peu mieux définir le rôle des Nations Unies vis-à-vis le gouvernement, mais aussi vis-à-vis les autres partenaires de développement et humanitaire.
Ah oui, vous avez parlé tout à l'heure là de la MONUSCO et on a remarqué une forte présence, une présence au plus haut niveau de cette mission, à cette retraite des agences. Et pour quelles raisons la MONUSCO a été vraiment partie prenante?
Parce que vous savez, le système des Nations Unies, c'est un système. On veut renforcer la notion d'un système qui travaille en concertation. Et on a tous le même but, c'est d'appuyer les initiatives, d'aider ce pays à établir la paix, promouvoir le développement, etc. Assister les vulnérables, donc en appui aux autorités et les acteurs nationaux. Donc, il est important qu'on ait en concertation, donc on a estimé l'important d'avoir et aussi des représentations de la MONUSCO au cours de cette retraite.
Vous avez parlé des défis qu'on peut relever dans ces pays, et l'un de ces défis, c'est l'organisation prochaine des élections, des scrutins à tous les niveaux, au moins les scrutins présidentiels et législatifs. Est-ce que les agences, dans leurs travaux, ont pensé ou mis un accent sur le processus électoral en République démocratique du Congo?
Les agences des Nations Unies sont prêtes à appuyer techniquement les questions des élections. Donc, on est à l'attente, on est là en tant qu'un appui au pays dans ce sens.
Et monsieur, Radio Capi vous remercie.
Merci.
Ouvrons cette page des nouvelles par la MONUSCO. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, Monsieur Maman Samba Sidiku, et les nonces apostoliques Luis Mariano Montemayor ont effectué du 17 au 20 février dernier une visite dans l'est du pays, notamment à Goma et Kichanga, dans la province du Nord Kivu. Les deux personnalités ont, au cours de cette tournée, échangé avec les autorités provinciales, les chefs des agences du système des Nations Unies, aussi avec les responsables de l'Église catholique, les membres de la société civile. L'agenda prévoyait aussi la visite des camps de déplacés à Kichanga, la prison de Muzenze, le séminaire d'Ombosco, mais aussi le séminaire de Buhimba. Et puis côté assistance humanitaire, le programme alimentaire et World Vision International distribuent une assistance humanitaire d'urgence à un peu plus de 6000 ménages depuis la mi-novembre dans les localités et villages du territoire de Lubero. Nous sommes là en Nord Kivu. Santé enfin, le Premier ministre Matata Ponyo a procédé mardi dernier à la pose de la première pierre pour la construction d'un entrepôt moderne de conservation des vaccins et intrants de santé à Kinkolé, un quartier situé à près de 40 km au centre-ville de Kinshasa. La construction de cet entrepôt s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique gouvernement Gavi UNICEF.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
411 violations des droits de l'homme enregistrées en janvier 2016 sur le territoire de la RDC. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme déplore une tendance plutôt à la hausse de ces violations, mais également la restriction démocratique sur l'ensemble du pays. Il se félicite toutefois des efforts fournis par le gouvernement dans la lutte contre l'impunité dans les rangs des forces de sécurité. Suivez plutôt cet entretien que Jean-Pierre Elali Coco a pu réaliser avec le directeur de ce bureau, José María Aranaz, entretien centré justement sur ce rapport.
José María Aranaz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ici en République démocratique du Congo. Commençons par l'actualité. Mardi dernier, l'opposition congolaise a appelé à une journée ville morte sur toute l'étendue de la RDC. Quelle a été votre observation en matière de violation des droits de l'homme? Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain?
Merci beaucoup. De notre côté, on ne fera pas la valoration politique ou de participation, mais seulement en matière des droits de l'homme. On a constaté une répression et intimidation très forte avant la journée d'hier contre les représentants de la société civile et les membres de l'opposition qui essayaient de faire la mobilisation de la population. Il y a eu des arrestations de membres de la société civile et aussi des leaders de l'opposition, même au niveau national, et membres du Parlement comme Martin Fayoulou. Il y avait aussi une menace très forte du côté du gouvernement, des sanctions exemplaires contre ceux qui participaient dans les mobilisations, qu'on considère c'est l'intimidation et la violation des droits de manifestation pacifique. Pendant la journée d'hier, on a constaté aussi plusieurs arrestations de membres de la société civile et de l'opposition à Goma, à Kinshasa, Uvira et à Matadi. À la fin de la journée, on a rapporté au moins 12 personnes qui restent encore en détention. Et maintenant, nous continuons à faire notre suivi et on reste vigilant pour voir s'il y aura des représailles contre ceux qui ont participé à la mobilisation d'hier.
Et vous parlez de membres de l'opposition qui ont été arrêtés. Est-ce que vous avez une idée sur certains noms, par exemple?
Oui, c'était bien connu que Martin Fayoulou était arrêté.
Il a été libéré ensuite.
Et il était libéré après plusieurs fois, mais il avait des autres leaders politiques qui nous ont rapporté qu'il avait l'intimidation contre les efforts de mobiliser à la population.
Voilà. Le bureau conjoint rend public son rapport sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo durant le mois de janvier 2016. Quel est le contenu de ce rapport, Monsieur José Aranaz?
Le rapport documente une augmentation dans les chiffres de violations des droits de l'homme commis dans les territoires de la République démocratique du Congo. On a documenté au moins 411 nouvelles violations des droits de l'homme. Les provinces les plus affectées, encore une fois, c'était l'Est. Et la majorité des violations des droits de l'homme étaient commises par les agents étatiques d'une manière avec une augmentation très grande. 67% de ces violations étaient commises par les agents de l'État. Et important souligner qu'il y avait au moins 17 victimes d'assassinats extrajudiciaires commis par les agents étatiques. Et aussi, on a documenté au moins 52 nouvelles violations des droits de l'homme qui ont relation avec les processus électoraux à l'avenir.
Par rapport au mois de décembre, on a connu une avancée ou pas en matière des droits de l'homme?
On a constaté une augmentation des violations des droits de l'homme qui n'étaient enregistrées. Et des aspects qui sont très préoccupants, les activités des groupes armés à l'Est et aussi les restrictions des libertés politiques dans tous les pays.
Oui, vous l'avez dit vous-même, parmi les auteurs présumés, on constate une augmentation du nombre d'agents étatiques, la PNC, l'ANR, FARDC et le Haut-Katanga, parmi les provinces que vous avez citées, est pratiquement en tête des provinces concernées par ces violations. Est-ce qu'il y a une explication à donner par rapport à ces deux, M. Aranaz?
Oui, l'augmentation des chiffres de violations des droits de l'homme à Haut-Katanga, c'est surtout relationné avec la répression des activités politiques des partis de l'opposition là-bas. Et c'est ça qui vous donne l'explication de l'augmentation des chiffres là-bas.
Et puis, en ce qui concerne les présumés auteurs?
Les présumés auteurs, ils sont la grande majorité étatique, la PNC et l'ANR, et sur l'autorité du commissaire spécial.
Mais généralement, on parle beaucoup plus de groupes armés qui sont auteurs présumés, bien sûr, de violations des droits de l'homme, mais ici, on remarque que c'est plutôt les agents étatiques. Comment expliquer ça?
Les agents étatiques ont été utilisés dans le cadre de la répression des libertés publiques qui ont été consacrées dans la constitution congolaise. Et ça, c'est l'explication des chiffres.
2016, c'est une année tout à fait électorale en République démocratique du Congo, vous le savez, hein. Et votre bureau a reçu mandat de constater, de dénoncer aussi les atteintes et violations des droits de l'homme. Quel est le rôle du bureau conjoint et quel rôle encore il entend jouer dans les jours à venir, parce que nous allons traverser quand même une période très cruciale, hein.
Il faut faire une petite précision. Le mandat a été donné à la MONUSCO par le Conseil de sécurité. Donc les composants des droits de l'homme et les bureaux conjoints des droits de l'homme fait la documentation de toutes les violations des droits de l'homme qui ont des relations avec les restrictions de liberté publique et qui sont des relations et d'impact sur la crédibilité du processus électoral. Par rapport des rôles du bureau de la documentation des violations des droits de l'homme, ça c'est très important parce que ça nous donne un diagnostic de la situation et ça peut nous aider avec les autorités de mettre en place des mesures pour corriger et changer les courses des événements pour donner la crédibilité au processus électoral. On a dit beaucoup de fois et on va le répéter, la crédibilité du processus électoral à l'avenir, c'est dépendant de la liberté d'expression, association et manifestation et le droit à la liberté de tous les acteurs politiques et le gouvernement, de l'opposition et aussi de la société civile et des médias.
Et en ce qui concerne la lutte contre l'impunité, est-ce qu'il y a des faits à épingler, à faire ressortir?
Oui, dans le cadre de la lutte contre l'impunité, nous applaudons les efforts du gouvernement qui reçut notre rapport. Nous donnons l'appui à toutes les actions pour éradiquer les violations des droits de l'homme commises par les agents étatiques et aussi pour faire la justice aux victimes. Dans les mois passés, par exemple, on a documenté au moins 14 membres des forces armées et 6 membres de la PNC qui ont été condamnés pour violation des droits de l'homme documentés. Et il faut souligner ça parce que ça c'est un effort important des autorités pour éradiquer les violations des droits de l'homme commis par les agents étatiques et aussi pour finir l'impunité.
Un dernier mot, et à la veille bien sûr de cette période électorale.
Oui, vous avez dit, le pays se prépare pour une année électorale très intensive, donc il y aura toutes les tensions politiques vont augmenter, et on rappelle aux tous les acteurs politiques et aux autorités à respecter tous les droits fondamental et toutes les libertés consacrées dans la Constitution et aussi dans les traités des droits de l'homme international, donc les sont signés par la République démocratique du Congo. Sans le respect plein des libertés publiques, il n'y aura pas de processus électoral crédible.
Voilà, Monsieur Aranaz, Radio Capi vous remercie.
Merci beaucoup et merci beaucoup à tous les auditeurs de Radio Capi.
Les efforts de pacification se poursuivent normalement dans la localité de Mbayo, c'est à 140 km au nord-est de Manono Centre, dans la province du Tanganyika. C'est en tout cas ce qu'ont expliqué les membres du comité de paix appelé Baraza à une délégation mixte, un MONUSCO, FARDC-PNC, qui a séjourné mardi dernier dans cette localité. Le comité Baraza est constitué en toute parité de représentants des Luba et des Pygmées. Reportage expédié Mamba Moubi.
La localité de Mbayo est calme. Il en est de même de la quinzaine de villages qui se sont vidés de leurs habitants après avoir entendu une forte détonation le 4 février dernier. Cette détonation avait fait sortir le leader pygmé Nyubaisha de son bastion de cantonnier. Celui-ci avait menacé de marcher, lui et sa milice, sur la localité de Mbayo. Fort heureusement, le général autoproclamé a fini par s'excuser dans une lettre envoyée au commandant FARDC en poste à Mbayo. Il a même fait le tour des villages pour appeler les habitants à rentrer chez eux. Appel entendu. De tout cela, le comité de Baraza a fait rapport à la délégation mixte MONUSCO FARDC PNC. Le comité Baraza a également rapporté ses efforts pour installer un comité analogue à Sangué. située à 35 km de Mbayo, Sangué est la plus grosse agglomération du groupement de Kiyombo et la troisième localité du territoire après Manono et Kiyambi. Sangué est à proximité de Cantonié, le fief de Numbaïcha. De retour de Mbayo à Kalemi, Expédie-moi Bamobi, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies, de Sion aux Nations Unies.
Opération militaire PRDC MONUSCO menée ces derniers temps en Ituri. C'est en tout cas le centre d'intérêt de la question de notre collègue Isaac Ngwanza. Il est de Congo Opportunities Media. La réponse est de Charles Bambara, directeur PID et porte-parole intérimaire de la MONUSCO. Il sera complété par le porte-parole militaire. Suivez.
Isaac Ngwanza pour le compte de Congo Opportunities Media. Il y a une information qui m'a particulièrement réjoui, c'est dire que les opérations conjointes FRDC et MONUSCO ont été conduites la semaine écoulée dans la province d'Ituri. Ma question est celle de savoir, cela montre qu'il y a eu une avancée significative dans leur rapport avec les FRDC. Mais à part l'Ituri, il y a encore des opérations conjointes dans quelle localité? Est-ce que c'est de manière générale ou c'est seulement en Ituri?
Je vais laisser la parole tout à l'heure au colonel Martin Amoudjou Kodjo pour compléter, mais je tiens à dire que la terminologie exacte que nous utilisons à la fois au niveau des FRDC, au niveau de la MONUSCO, c'est bien des opérations conduites par les FRDC avec l'appui de la MONUSCO. Il ne s'agit pas d'opérations conjointes. Voilà. Ce qui est dit, il ne s'agit pas seulement des opérations en Ituri, il s'agit des opérations sur l'ensemble du front où nous enregistrons des violations, j'allais dire, des droits de l'homme, des violations, des tensions intercommunautaires, des attaques des groupes armés sur l'ensemble du front dans l'est de la RDC. Nous repérerons présents donc aux côtés des FRDC pour les appuyer, les aider, les soutenir dans leur combat contre ces groupes armés. Colonel, je pense que j'ai bien traduit votre pensée.
Oui, merci Charles, c'est vrai ce que je voulais dire. Et comme toujours, nous militaires, que ce soit la force de la MONUSCO ou les FARDC, nous sommes toujours ensemble, nous sommes des militaires, nous nous comprenons. Poursuivons nos opérations, nos activités militaires. Si j'appelle opération, c'est activité militaire. Ce n'est pas dans le cadre de l'accord de reprise de population. Comme toujours, moi on a toujours mené des activités militaires ensemble.
Magazine des Nations Unies, Portrait d'Isine.
Voilà, bonjour fidèles auditeurs de Radio Okapi et de Magazine des Nations Unies. Moi, je m'appelle François Kadima. Je suis marié à Joséphine Alichama. Voilà, c'est madame mon épouse. J'ai fait mes études primaires à Kananga, dans l'école Malanji. Pour ceux qui connaissent cette école à Kananga, ils vont s'y retrouver facilement. Et les humanités, c'est à Chikapa, toujours dans le Kasaï. Je suis passé par plusieurs écoles. D'abord, complexe scolaire Gila, après Djibelaï, après je suis arrivé à Mabondo, pardon, et puis je suis allé à l'Institut Chukunga, où j'ai fini, obtenu mon diplôme d'État. C'est en 98. Je suis resté un moment avant de venir à Kinshasa faire mes études universitaires à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication IFASIC, où j'ai obtenu ma licence en journalisme politique extérieur. Voilà, je suis à la radio Okapi depuis 2012. Actuellement, je suis au service web. Je suis web éditeur où chaque matin, quand nous venons, nous avons des tâches réparties. Nous traitons les informations à mettre en ligne. Tout ce qui se passe à l'antenne, nous le faisons au service web de Radio Okapi. Voilà, à part le web, je suis également dans l'équipe Éco d'économie. Je présente le journal économique, également le Zoom, qui passe à l'antenne chaque matin. Donc les infos internationales à midi, sur Okapi également. Donc voilà, c'est les autres tâches collées à ce que je fais donc au web. Avant d'arriver ici à la radio Okapi, je suis passé par deux médias du pays, donc à l'intérieur, d'abord à Chikapa. J'ai été à la radio télé universelle. C'est en 2000 quand j'ai commencé la radio télé universelle où j'ai présenté les émissions de musique. Après là, je suis allé à une autre radio qui s'appelle Kasaï Horizon, radio télévision Kasaï Horizon. C'est à l'intérieur à Chikapa où j'ai en dehors deux émissions de musique. Alors j'ai commencé à présenter les journaux. Ça m'a donné le goût et voilà. Avant de venir à Kinshasa en 2004, intégrer la RTGA, la radio télé du groupe L'Avenir, où j'ai été reporter, présentateur des émissions, animateur des émissions, bien sûr, avant de rejoindre Radio Capi en 2012. Voilà, les perspectives d'avenir après Radio Capi. Je voudrais créer une grande agence de production. En tout cas, j'aime bien ce travail, j'ai de la passion pour ce travail. Et je voudrais créer une agence pour apprendre aussi aux autres à bien faire ce travail. J'aime bien la perfection, j'aime un travail bien fait. Voilà, c'est pourquoi je veux bien continuer à le faire. Et j'aime bien être journaliste, en tout cas, c'est pour toute ma vie. Mes préférences, j'aime le sport. Vous avez été avec nous dans cette ambiance du CHAN, le championnat d'Afrique de Nations. Les Léopards nous ont donné de la joie, la victoire. Nous avons été très contents. Voilà, j'aime le foot. La musique, j'aime aussi. Je peux me rappeler encore des morceaux chrétiens que j'aime bien chanter. Tu es pour nous un bon berger, en toi nous pouvons toujours espérer. Voilà, c'est très bien pour moi comme ça. Le Kassav m'intéresse aussi. Voilà. Et Kassav, avec le groupe Kassav, j'ai beaucoup aimé ce groupe depuis très longtemps. Oui, donc j'aime bien la musique en dehors du sport. Merci à tous les auditeurs de Radio Capi. Nous vous aimons bien, nous aimons ce travail. Bonne journée dominicale.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
À vos agendas, mesdames et messieurs, les Nations Unies organisent du 24 au 25 février la conférence sur l'investissement privé dans la région des Grands Lacs à Kinshasa. Le secrétaire général des Nations Unies, monsieur Ban Ki-moon, qui fera le déplacement de la capitale de la RDC, présidera l'ouverture des travaux. Déjà la fin du magazine des Nations Unies. Merci de nous avoir suivis. On fait rendez-vous dimanche, à même heure, à même fréquence. Sinon, vous pouvez le réécouter sur notre site internet. Vous tapez www.radiocapi.net. Alors, on va dire merci à Jean-Pierre et Lali Coco qui étaient à la coordination, mais également au reportage. Martin Sebujangwe a supervisé ce magazine. Moi, c'est Tina Salama. Je voulais donc présenter avec le même plaisir à la mise en onde Paul Badenyama. Et on se dit à très bientôt. Bon dimanche chez vous. Ciao.